Pour introduire ce tome consacré à la monnaie et à la finance, je vais tout d'abord bien souligner la différence entre une monnaie et un titre financier. Puis je montrerai comment toute économie est nécessairement une économie monétaire et financière. Comment par conséquent l'organisation étatique de la création monétaire et du fonctionnement des marchés financiers sont des enjeux politiques de toute première importance. La monnaie est un pur signe. Il y a fort longtemps, même c'était déjà le cas à l'époque de Zakaria, que les monnaies sont dématérialisées. Ce signe, la monnaie, permet d'acheter instantanément tout ce qui est à vendre, car il est accepté comme paiement par tous les vendeurs. Et c'est par ailleurs en monnaie que sont consentis les prêts, et c'est en monnaie qu'on peut se libérer de toute dette. La monnaie est ainsi un équivalent général. Conserver de la monnaie, c'est conserver une créance sur tout ce qui a été déjà produit et qui est à vendre. Alors qu'un titre financier, ce n'est jamais qu'une simple promesse de revenus futurs. Celui qui a émis le titre et qui l'a vendu à un autre, qui l'a acheté et payé en monnaie, ne fait que lui promettre de lui rendre cette monnaie augmentée d'un intérêt dans l'avenir. Le point crucial est ici que ce n'est qu'une promesse, indépendamment même de la volonté des deux acteurs de l'honorer. Il se peut que celui qui a vendu le titre ne soit pas en mesure d'honorer sa promesse, indépendamment de sa volonté. C'est pourquoi un titre financier peut se caractériser, comme on l'a vu, par un rendement espéré et un risque. Un titre n'est donc pas équivalent à de la monnaie. Un acteur qui a acquis un titre avec de la monnaie peut toujours le revendre sur un marché secondaire à un autre acteur contre monnaie. Cependant, à la différence de la monnaie elle-même, qui conserve sa valeur du moins tant que le niveau général des prix ne varie pas, un titre dont le marché est à l'équilibre n'a pas le même prix à l'achat et à la vente. Voyons cela concrètement à partir du carnet d'ordre d'achat et de vente que compile une bourse et qui lui permet de réaliser les transactions réalisables et de fixer un prix. Dans ce premier graphique, vous avez la courbe des offres d'achat, la courbe des offres de vente, et vous voyez immédiatement que dans cette configuration, des transactions vont avoir lieu. Toutes les quantités ici représentées vont être vendues puisqu'il y a des acheteurs qui sont prêts à payer plus cher que ce que les vendeurs sont prêts à vendre. Quand le marché est à l'équilibre, en réalité, les deux courbes se sont séparées, c'est-à-dire que le prix auquel l'acheteur le plus courageux est prêt à acheter reste inférieur au prix auquel le vendeur le moins gourmand est prêt à vendre. C'est cette différence qu'on appelle le bid-ask spread, en anglais la différence entre le prix offert et le prix demandé. Quelle est la raison profonde de cette différence entre le prix offert à l'achat et le prix offert à la vente? La raison, c'est qu'un titre, on l'a dit, n'étant qu'une promesse de revenus futurs et présentant toujours un risque, ce risque n'a aucune raison d'être évalué de la même façon par celui qui détient le titre et par celui qui l'achète. On peut même faire l'hypothèse que celui qui détient le titre, qui donc l'a acheté, s'est renseigné sur l'entreprise, l'a pratiqué pendant un certain temps et connaît mieux le risque de l'action de l'entreprise, si c'est une action, que celui qui l'achète. Et par conséquent, celui qui l'achète, connaissant moins bien le risque, prend une marge et offre moins cher que celui qui l'a, parce que lui connaît mieux le risque correspondant à cet investissement. En conséquence, le bid-ask spread est d'autant plus important que l'information sur le couple rendement-risque de l'actif est incomplète et asymétrique. Pour qu'une nouvelle transaction ait lieu, il faut soit qu'un acheteur accepte de payer le bid-ask spread, soit qu'un vendeur accepte de faire ce rabais pour trouver un acheteur. La conséquence de cela est que si par exemple un acteur économique voulait tous les soirs transformer sa monnaie en titres, parce que les titres rapportent un intérêt pendant la nuit, puis le lendemain retransformer ses titres en monnaie, il percevrait certes un intérêt pendant la nuit, mais il y perdrait à cause du bid ask spread. Cela montre très clairement, à contrario, l'intérêt qu'il y a à conserver de la monnaie. La monnaie est parfaitement liquide, c'est le terme technique, en ce qu'elle permet de se libérer immédiatement d'une dette ou d'acheter tout ce qui est à vendre. Un titre n'est jamais totalement liquide et son bid ask spread mesure son degré d'illiquidité. Si on devait l'acheter et le vendre sans arrêt plusieurs fois dans la même journée, on se retrouverait ruiné à la fin de la journée. Deux remarques pour terminer sur l'importance cruciale de la monnaie et de la finance dans les économies développées. Il n'y a pas d'échange véritablement développé entre acteurs nombreux sans monnaie. Le troc n'est qu'une fable d'économistes ou alors n'a existé qu'aux marges des sociétés primitives. Et deuxièmement, à partir du moment où il y a de la monnaie, existent nécessairement des titres financiers et la finance tout entière. La finance est indispensable à tout système économique, puisque l'essence même de l'activité des entrepreneurs est de faire des paris sur l'avenir et par conséquent de prendre des risques. La finance leur permet de prendre ces risques avec l'argent des épargnants et elle organise un vaste marché d'échange de ces risques. Ce sont les deux fonctions fondamentales de la finance. En revanche, il existe des systèmes monétaires et financiers qui sont régulés différemment par les États et qui, tout en remplissant leurs deux fonctions générales, le font avec des résultats d'ensemble différents et possiblement plus favorables selon certains critères. Par exemple, ces systèmes monétaires et financiers sont plus ou moins instables.